Vous êtes sur RTL.
Anne Le Hénaff,
RTL Grand Soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Grand Soir qui sera encore beaucoup consacré au feuilleton de ce début d'été, l'affaire Rugy. Le ministre de la Transition écologique embourbé dans plusieurs dossiers révélés par la presse, sa directrice de cabinet, son ancienne directrice plutôt puisqu'il l'a limogée hier, prend la parole. Il a voulu sauver sa tête en offrant la mienne. Nicole Klein dénonce sur RTL un geste inélégant et brutal. Et puis on verra que le maintien à son poste de François de Rugy fait grincer des dents, y compris dans les rangs de la majorité. Y aura-t-il des nouveaux débordements dimanche soir après le match de foot entre l'Algérie et le Nigeria? Hier, la liesse autour de la victoire algérienne a parfois débordé. Plusieurs magasins ont été pillés sur les Champs-Élysées. 74 personnes interpellées. Les départs en vacances, si vous conduisez, laissez votre portable dans la boîte à gants, c'est plus prudent. Et on ira constater du côté de Rennes que cela peut vous coûter cher si les policiers vous arrêtent. Les sports, Roger Federer rejoint Djokovic en finale du tournoi de Wimbledon après un match d'anthologie face à Raphaël Nadal. Et puis le Tour de France, le néerlandais Groenewegen s'impose à Chalon-sur-Saône. Chiconet est toujours en jaune.
RTL Grand Soir, Anne Le Hénaff.
Celui qui est encore ministre de la Transition écologique, confirmé à son poste hier par Matignon, se bat sur plusieurs fronts. François de Rugy, en pleine tourmente après la succession de révélations de la presse, de Mediapart notamment, sur ses luxueux dîners alors qu'il présidait l'Assemblée nationale, sur les travaux dans son logement de fonction de ministre pour 64 000 euros. La charge du jour est venue de son ancienne directrice de cabinet, la préfète Nicole Klein, qui a été limogée hier dès que Mediapart a révélé qu'elle avait conservé un logement HLM pendant 12 ans, alors qu'elle n'habitait plus à Paris. Elle a décidé aujourd'hui de parler, d'abord d'expliquer qu'elle a toujours payé son loyer et que l'appartement avait toujours été occupé. Elle a aussi dénoncé la méthode avec laquelle François de Rugy s'est séparé d'elle. Nicole Klein était tout à l'heure l'invitée de Philippe Robuchon dans RTL Soir.
François de Rugy, lui, a décidé de me limoger immédiatement. Et j'ai trouvé toute la séquence, comme on dit, très violente et très injuste. Je ne l'explique pas parce que je ne comprends pas bien comment on peut se séparer de sa collaboratrice la plus proche dans un moment justement d'extrême difficulté. Donc je ne la comprends pas.
Quel adjectif emploieriez-vous ?
Si j'étais dans un registre littéraire, je dirais inélégant. Et si je suis dans le registre du politique, je dirais brutal.
On dit qu'en haut lieu, à l'Élysée, à Matignon, on n'a pas apprécié la façon dont vous avez été limogé. Vous avez reçu de nombreux messages de soutien depuis votre limogeage.
De nombreux messages de soutien de ministres, d'anciens ministres, de Nicolas Hulot, de quelques parlementaires, d'amis, de fonctionnaires qui me connaissent depuis des années, qui se rappellent à mon bon souvenir. Donc heureusement, tout le sens de ma vie professionnelle est confirmé par ces messages et j'ai tenu à prendre la parole parce que je souhaite partir avec ce bilan-là qui est le bilan de toute ma vie professionnelle.
Nicole Klein, la préfète, ancienne directrice de cabinet de François de Rugy, limogée hier. Le ministre se dit très en colère. Il a promis de rembourser toute dépense qui au final se révélerait injustifiée. Le contrôle des travaux qu'il a fait faire dans son logement de fonction de ministre a commencé dès ce matin. Il y en avait eu pour 63 000 euros. L'enquête va durer une semaine. Et parallèlement, les services de l'Assemblée nationale épluchent les listes d'invités des dîners qui font causer. Mediapart a publié des photos de homards géants et de grands crus de Bordeaux, assurant que la plupart des invités étaient des amis de la femme de celui qui présidait alors l'Assemblée nationale. François de Rugy assure que cela faisait partie de son travail de représentation. C'est peut-être le début du feuilleton de l'été. Et même au sein de la majorité, Benjamin Sportouche, certains pensent que ça ne peut pas durer.
Oui, en effet, hier, au moment où l'on apprend la convocation en urgence à Matignon de François de Rugy, beaucoup d'élus de la majorité sont persuadés que son limogeage est acté. Ce n'est pas tenable, affirme alors un député. Un autre de ses collègues en est aussi convaincu, mais il craint ce qu'il appelle la jurisprudence Macron. Autrement dit, ne pas agir sous la pression. Il voit juste, c'est en effet l'option choisie par l'exécutif en donnant une nouvelle chance au ministre, maintenu mais recadré. François de Rugy, qui devra donc faire viser toutes ses dépenses et si besoin les rembourser, attention à la dictature de la transparence justifie un marcheur, sinon c'est l'ensemble du monde politique qui risque d'en pâtir. Mais la décision d'Édouard Philippe est loin de faire l'unanimité, y compris chez des élus proches du Premier ministre. De Rugy est en sursis, assure un député, et puis un ténor de la majorité croise lui les doigts pour que la polémique s'arrête là. Si jamais il y a d'autres révélations, il ne pourra pas rester, s'inquiète-t-il, sans vraiment croire à la fin du feuilleton.
Benjamin Sportouche du service politique de RTL. À Montpellier, une femme a été tuée hier soir, fauchée par un chauffard qui a perdu le contrôle de son véhicule. En marge des débordements liés à la victoire de l'Algérie dans la Coupe d'Afrique des Nations, c'est du football. Un enfant d'un an a été grièvement blessé et une jeune fille plus légèrement. Le conducteur est toujours en garde à vue ce soir. Il devrait être mis en examen demain pour homicide involontaire aggravé. Au coup de sifflet final, des milliers d'Algériens, de Franco-Algériens ou de supporters de l'équipe algérienne sont descendus dans la rue pour faire la fête. Fête qui a parfois dégénéré. 74 personnes au total ont été arrêtées. Des boutiques vandalisées, notamment sur les Champs-Élysées à Paris. Pour en parler avec nous ce soir, Bruno Retailleau, le chef des sénateurs Les Républicains. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc il y a eu plusieurs débordements, parfois très graves, hier soir, lorsque les supporters de l'Algérie ont fêté la victoire un peu partout en France. On aimerait avoir votre réaction sur cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites, vous aussi, que c'est intolérable, comme le ministre de l'Intérieur?
Absolument, absolument inacceptable, absolument inadmissible. Comment se peut-il qu'on ait ce type de violence en France à la suite d'un match de l'équipe d'Algérie qui joue à l'extérieur, qui joue sur le sol africain? Et ça nous a donné une jeune femme qui est décédée, son bébé de 1 an qui est entre la vie et la mort, des magasins qui ont été pillés. C'est absolument intolérable.
Je vous propose d'écouter la réaction du député européen du Rassemblement National, Gilbert Collard, qui lui aussi est très en colère. Écoutez ce qu'il a dit tout à l'heure.
C'est pas les supporters de l'équipe d'Algérie qui doivent faire la loi en France. Point, c'est tout. Hein. Ce que je dis là n'est pas en odeur de sainteté, mais franchement, je m'en fous parce que je trouve que trop c'est trop. Voilà. Ce qui s'est passé est totalement inacceptable, intolérable. Hein. On peut multiplier des qualificatifs à l'infini. Malheureusement, la riposte policière n'a pas été à la hauteur. Le ministre de l'Intérieur, ce matin, faisait des commentaires et disait qu'il allait prendre les mesures. Alors cet homme-là est toujours en retard d'une nuit, quoi, d'une manifestation, alors qu'on sait de manière répétitive que chaque fois que l'Algérie est dans un match, il y a des débordements. C'est répétitif. Et on peut s'inquiéter pour le 14 juillet. Donc, règle de base, fermeture des Champs-Élysées.
Voilà, les condamnations sont unanimes. La solution du Rassemblement National, c'est de fermer les Champs-Élysées. Qu'est-ce que vous préconisez?
J'ai deux réactions en dehors de l'indignation. La première réaction, c'est que notre politique en matière de sécurité, en matière judiciaire, en matière pénitentiaire, est en France à côté de la plaque. Nous avions un colloque sur les violences au Sénat il y a quelques jours en France, et croyez-moi, les violences aux États-Unis, par exemple à New York, ou même aux Pays-Bas, avec la politique des courtes peines, elles ont été résolues. Et nous ne les résolvons pas, nous avons une société qui est en train de s'ensauvager. Le deuxième élément, c'est l'échec, il faut constater l'échec du modèle d'intégration républicaine. C'est terrible. Et là, on a là aussi une responsabilité sans doute des familles, mais aussi de l'école. Et il faut qu'on avance sur nos deux jambes, à la fois une réponse sécuritaire. Il faut changer la politique pénale. Quand j'entends Mme Belloubet vouloir exonérer de responsabilité les jeunes de moins de 13 ans. Mais on rêve. Donc changer cet aspect-là, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'on parvienne à mieux intégrer, à mieux assimiler des jeunes Français qui sont en train de faire sécession parce que la prophétie, si j'ose dire, la prophétie inquiétante de M. Gérard Collomb lorsqu'il a quitté son ministère de l'Intérieur, qui nous avait dit attention, aujourd'hui, on vit côte à côte, demain, on pourrait vivre face à face. C'est ce qui est en train de se réaliser pour demain si nous ne faisons rien aujourd'hui.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Ce qu'il faut faire concrètement, c'est changer de politique pénale et judiciaire. Voilà, dans ce colloque, nous avions un commissaire de police qui représentait un grand syndicat de policiers. Il nous disait que lorsqu'ils arrêtaient des mineurs, des dealers, des mineurs, ils les arrêtaient et quelques jours après, ils étaient libres. Comment voulez-vous, dans une société d'impunité, comment voulez-vous faire baisser le niveau de violence?
Est-ce que vous êtes inquiet pour la demi-finale qui opposera l'Algérie au Nigeria dimanche soir, le soir du 14 juillet?
Mais bien évidemment, je pense qu'il faut veiller à interdire les rassemblements, notamment des supporters, évidemment. Et il faut prendre des décisions rapidement.
Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir été l'invité de RTL Grand Soir. En bref, 300 sans-papiers ont brièvement occupé le Panthéon cet après-midi à Paris. Ils veulent être régularisés. Ils réclamaient un logement et être reçus par le Premier ministre Édouard Philippe. Ils ont été évacués au bout de quelques heures. La ville de Paris va honorer deux capitaines de bateaux qui ont secouru des migrants en danger en Méditerranée. Deux femmes allemandes, Pia Klemp et Carola Rackete. Toutes les deux sont poursuivies par la justice italienne. Elles vont recevoir la médaille vermeille de la ville de Paris. Le gilet jaune qui avait lancé des insultes antisémites au philosophe Alain Finkielkraut en février dernier a été condamné aujourd'hui à 2 mois de prison avec sursis. 22h10 sur RTL, on marque une pause dans ce journal et on va s'intéresser au transport des fruits et des légumes entre Perpignan et le grand marché de Rungis près de Paris. C'est tout un symbole, ils sont de plus en plus transportés par camion au point que la ligne ferroviaire devait fermer. Mais non, c'est tout un symbole justement, les trains de légumes vont continuer à rouler. À tout de suite.
RTL Grand Soir, Anne Lehenaf. Pour les 75 ans du débarquement et de la bataille de Normandie, le mémorial de Caen propose une exposition inédite dédiée au célèbre peintre américain Norman Rockwell. Venez admirer ses peintures mythiques, dont les 4 libertés, qui pour la première fois sortent du territoire américain pour cette exposition exceptionnelle à voir jusqu'au 27 octobre. Rockwell, Roosevelt et les 4 libertés, c'est l'exposition événement du mémorial de Caen avec RTL. Anne Lehenaf,
RTL Grand Soir.
Il est 22h11, les légumes prendront le train encore entre Perpignan et Paris. La ligne de fret ferroviaire qui permettait depuis 30 ans aux producteurs d'envoyer leurs marchandises jusqu'au marché de Rungis devait fermer aujourd'hui car les wagons sont trop vétustes et parce qu'il y a de moins en moins de clients. Seulement voilà, si elle ferme, les transports se feront tous par camion. Or c'est une aberration écologique. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a donc promis que ce train roulerait encore lundi, mais il circule presque à vide depuis 10 jours, Patrick Hisson.
Oui. C'était le cas pour le train parti cet après-midi pour Rungis. Michael est l'un des conducteurs du train des primeurs.
Là, il part pratiquement à vide du côté de chez Ré. Ça fait une semaine où ils mettent plus de marchandises. Et du côté de chez Roca, il part à 2 ou 3 wagons chargés. Sur en tout, 23 Ré.
Les sociétés Ré et Roca sont les deux seules à remplir le train depuis des années. Ces derniers jours, elles ont perdu 2 gros clients après des retards considérables. Jean-Luc est le délégué syndical de l'entreprise Ré.
Il n'arrive pas à l'heure. On va vous faire passer le train par la vallée du Rhône. Il va arriver avec 8 heures de retard. Bon, c'est pas possible. On ne peut pas travailler dans ces conditions, quoi.
À tel point que Rungis était fermé à l'arrivée du train. À chaque panne sur le réseau SNCF, c'est le train des primeurs qui trinque, regrette Michael, le conducteur.
Avec le nombre de camions qui partent tous les jours de Perpignan pour alimenter le mine de Rungis, c'est évalué à 250 en plus du train. Et là, si le train s'arrête, on va mettre encore 50 à 80 camions de plus sur les routes tous les jours.
Alors, ce conducteur ne comprend pas les réticences de la SNCF, d'autant assure-t-il que le matériel est en bon état et que le prix est 3 fois moins cher que par la route pour les producteurs.
Reportage de Patrick Hisson. Cap sur la plage ou la montagne, c'est selon, vous serez encore nombreux à partir en vacances demain. La journée est orange sur les routes sur tout le territoire. Et si vous prenez le volant, interdiction de téléphoner. D'abord parce que c'est dangereux. Et puis si les policiers ou les gendarmes vous surprennent, cela peut vous gâcher vos vacances ou en tout cas en réduire sérieusement le budget. Mathieu Lopineau a suivi un contrôle près de Rennes.
Oui, une quarantaine d'automobilistes contrôlés cet après-midi à ce rond-point de Saint-Grégoire.
Papier de véhicule, s'il vous plaît.
Franck a été pris, lui, au volant en téléphonant. Il écope de 135 euros d'amende et d'un retrait de 3 points.
Mon kit manip ne marchait pas et donc je sais que c'est une connerie, mais il y a des habitudes historiques qui ont été prises et c'est vrai que c'est dur de refréner un peu tout ça.
Pour mieux contrôler l'usage du téléphone portable, le commandant Moël utilise une moto fantôme.
On a 2 motos, oui, une en civil qui va alerter la moto qui la suit et ensuite on a une zone d'interception un peu plus loin.
Le gouvernement prévoit d'ailleurs de confisquer le permis de conduire si l'usage du téléphone est lié à une autre infraction. Augustin Sellard du cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Par exemple, vous téléphonez en conduisant, vous grillez un stop pendant ce temps-là. Donc là, vous avez 2 infractions, dont l'usage du téléphone et on pourra confisquer votre permis de conduire. Quand vous conduisez et que vous lisez un SMS, vos yeux vont quitter la route pendant 5 secondes. Et pendant ces 5 secondes-là, quand vous roulez par exemple à 50 km/h, donc en ville, vous allez parcourir 69 mètres. Sur ces 69 mètres, personne ne regarde la route, votre véhicule n'est pas contrôlé et vous pouvez très bien percuter un piéton.
Et sur la route des départs en vacances, les gendarmes et policiers étaient également présents pour faire de la pédagogie et rappeler les bons gestes, comme bien accrocher son porte-bagages et faire régulièrement une pause.
Bonne route si vous partez en vacances ce soir ou demain. Les sports, le tournoi de tennis de Wimbledon. La finale opposera Djokovic à Federer. Le Serbe numéro 1 mondial a battu l'Espagnol Roberto Bautista. Et puis 2 légendes sont entrées sur le court pour l'autre demi-finale, Roger Federer et Rafael Nadal. Du grand tennis, Federer s'est imposé en 4-7, 7-6, 1-6, 6-3, 6-4, Isabelle Langer.
Oui, Roger Federer disputera dimanche sa 12e finale à Wimbledon, sa 31e en Grand Chelem. Un ticket qu'il a décroché au terme d'un match fantastique contre Rafael Nadal, car cette demi contre son meilleur ennemi a été d'une intensité incroyable. C'était leur 40e duel et les deux hommes ont joué à un niveau exceptionnel, fabuleux. Un tennis champagne digne des pimps que sirotent les spectateurs de Wimbledon. C'était tout simplement magique. À bientôt 38 ans, Federer s'exprime toujours aussi bien sur le gazon londonien. Dans deux jours, il retrouvera Novak Djokovic avec un objectif, gagner son 9e titre à Wimbledon, le 21e en Grand Chelem, le 103e de sa carrière. Bref, écrire encore un peu plus sa légende.
Le Tour de France, l'étape du jour a vu la victoire du Néerlandais Groenewegen à Chalon-sur-Saône. L'Italien Ciccone conserve son maillot jaune. Demain, 8e étape entre Mâcon et Saint-Étienne. Le temps pour ce week-end, il fera beau demain, Valérie Quintin.
Au pire, une matinée un petit peu variable sur la moitié nord avec quelques pluies près des frontières de l'Est. Il y aura plus de soleil dans l'après-midi, toujours en dehors du nord-est quand même, où les passages nuageux seront un peu plus nombreux. Beau soleil pour une très belle moitié sud toute la journée, quelques ondées sur les Alpes du Sud et les Pyrénées en soirée et rien de plus. Les températures, elles seront stables, comprises entre 20 et 35 degrés de Cherbourg à Nîmes. Comptez 23 degrés à Metz, 24 à Colmar, 26 degrés à Saint-Étienne et à Biarritz. Il fera 28 degrés à Paris et Chambéry, 30 à Ajaccio et Périgueux et 32 degrés à Toulouse.
22h16 sur RTL. Très belle soirée à tous. Vous êtes entre d'excellentes mains.